Sud Radio, le livre du dimanche.
9h42 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. C'était il y a 6 ans et un jour, la France se réveillait dans la stupeur après ce qui s'était passé lors des attentats du 13 novembre, le soir à Paris. Un couple notamment l'a vécu de très près, directement concerné, Myriam et Pierre Cabon, qu'on a le plaisir de recevoir dans le livre du dimanche aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Myriam Cabon, bonjour Pierre Cabon. Un éclat dans le noir, c'est le récit de votre vie, de la manière dont vous avez traversé l'attentat au Bataclan, où vous étiez, vous Pierre, précisément dans la fosse qui a changé votre vie. Vous êtes en fauteuil roulant depuis ce soir-là. Vous avez pris une balle qui vous a sectionné la moelle épinière. Vous racontez dans ce livre aussi comment vous vivez encore plus fort. Vous êtes lancé dans un tour du monde. Vous connaissez Denis Brognard. Vous êtes devenu des aventuriers et vous vous éclatez. Vous allez nous expliquer comment. Le livre du dimanche, c'est tout de suite. Pierre Cabon, vous étiez au Bataclan ce soir-là avec vos amis, fans de Eagles of Death Metal. Myriam, où vous étiez pas, c'est pas votre truc, a priori.
Non, moi, c'était pas mon truc et j'avais très envie qu'il passe une soirée avec ses copains tranquille.
Ouais, c'était le moment où vous aussi, vous étiez tranquille, vous étiez séparés, vous allez vivre ça de manière différente. Vous, vous vous retrouvez pile au moment de l'attaque, Pierre, dans la fosse, à l'endroit vraiment le plus près possible. Vous venez de jouer des coudes pour vous rapprocher.
C'est ça. En fait, on s'est rapproché de la salle de la scène exactement pour mieux voir les artistes et en profiter un peu plus. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à un peu entendre comme des ballons qui éclataient derrière nous. Et en fait, ce sont les premiers tirs des Kalachnikovs. Et en fait, à ce moment-là, il y a un mouvement de foule. Et en fait, tout est flou pour moi à ce moment-là. Et en fait, je me retrouve rapidement touché et projeté à terre.
Une douleur intense, vous ne savez pas encore ce que vous avez. Vous avez votre ami qui vous dit « Lève-toi, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. » Vous ne pouvez plus bouger.
Exactement.
Vous comprenez vite ce qui vous arrive ou pas ?
À ce moment-là, je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Je lui dis juste « bah, va-t'en, il se passe quelque chose, je ne sais pas très bien quoi, mais c'est mieux que tu sortes. » Et en fait, c'est après l'attaque, quand je me réveille à ce moment-là, que je me rends compte que je ne marcherai plus.
Vous, Myriam, vous n'êtes pas encore au courant. Vous êtes en train de manger, puis à un moment, vous regardez la télé, vous avez des flashs bleus. Vous comprenez assez vite que ça se passe aussi au Bataclan, là où est Pierre ?
Tout à fait. En fait, j'ai mis un petit peu de temps à réaliser que c'était bien au Bataclan qu'il m'avait dit qu'il allait, parce que je ne connaissais pas encore bien les salles de concert parisiennes.
Il a un concert, mais alors où est-ce qu'il est ?
Voilà, c'est ça. Mais du coup, effectivement, j'ai essayé de l'appeler une fois, puis je vois qu'il ne répond pas. Je vois ce qui se passe. Je comprends vite qu'effectivement, c'est bien au Bataclan qu'il était.
Et là, vous avez passé une nuit absolument épouvantable à vous demander ce qui lui arrive, à le chercher.
C'était un peu long, effectivement.
C'était effectivement très long. En plus, vous faites partie de tous ces gens qui ont entendu ces témoignages bouleversants qui essayent d'appeler les gens qui sont encore au Bataclan. Pierre, va bien, vous allez le retrouver. Enfin, il va bien. Il est à l'hôpital. Écoutez, je l'ai en face de moi, il sourit tout le temps, donc c'est normal que je dise qu'il va bien. Il faut qu'on raconte la manière dont vous vous retrouvez. Vous arrivez à l'hôpital, il est intubé, il n'est pas dans le coma, mais vous griffonnez quelque chose à l'adresse de Myriam. Qu'est-ce que vous arrivez à griffonner ?
Je lui ai mis sur une petite ardoise avec quelques fautes, je pense. Est-ce que je t'ai fait peur ?
Avec un grand sourire, évidemment.
Avec un petit sourire. Donc vous retrouvez l'homme de votre vie. Qui est dans un état... Enfin, vous savez déjà qu'il ne pourra plus marcher ?
Non, à ce moment-là, on ne le sait pas vraiment. En fait, on sait qu'entre les opérations, la veille, il s'est réveillé sans sentir ses jambes. Mais en fait, on ne sait pas du tout si c'est définitif, si c'est lié au choc, etc. Donc, on n'en sait rien. En fait, on ne l'apprendra que le lundi qui suit les attentats. Et du coup, on a encore à ce moment-là un petit peu d'espoir. Mais le plus important, sincèrement, c'est de le retrouver vivant. Le reste n'a pas vraiment d'importance.
Et c'est pour ça qu'il vous met un petit smiley sur l'ardoise. Évidemment, vous fondez en larmes comme n'importe qui fondrait en larmes dans ces cas-là.
Exactement.
Ce qui est incroyable, c'est que vous vous êtes connus, en fait, vous étiez ensemble 6 mois avant l'attentat. Pas davantage.
Tout à fait. Oui, on s'est rencontrés 5 mois pile même avant les attentats.
5 mois. Donc vous, concrètement, vous n'avez connu Pierre sans fauteuil roulant que 5 mois.
Exactement, c'est ça.
Sauf que votre vie, ça vous a rapproché ce drame, Pierre.
Oui, complètement. En fait, ça a été beaucoup plus intense dès la première minute où on s'est retrouvés, je pense. Et depuis, on n'a qu'une seule envie, c'est vivre à fond le temps qui nous reste.
Ouais, c'est ça. Vous êtes lancé dans un tour du monde, on va en parler, c'est incroyable. Votre livre est préfacé par Denis Brognard, et en plus, c'est un bon clin d'œil, parce que ça résume un peu la manière que vous avez de vivre depuis le 13 novembre. C'est un peu Koh-Lanta, votre vie, Pierre.
Oui, c'est ça. On essaye de se mettre des challenges depuis le premier jour. Et donc, on a eu la chance d'avoir Michael Jeremias pour la partie handicap en termes de préface. Et Denis, ça a vraiment été une belle rencontre qu'on a fait en début d'année. Et lui, c'est vraiment le côté aventure qui l'a mis en avant.
Et vous aussi, Myriam, du coup, c'est devenu votre aventure. Comment on s'adapte au fait, justement, qu'on va devoir aider l'homme de sa vie tous les jours à s'adapter à sa nouvelle vie de personne handicapée en fauteuil roulant?
Déjà, là où nous, on a une grande chance, c'est qu'en fait, Pierre, il est complètement autonome au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est des difficultés qu'on n'a pas affrontées pour le coup. Mais c'est vrai que c'est une grosse adaptation et je pense qu'il faut le prendre petit à petit. Et il faut pas. Enfin, voilà, quand Pierre est sorti de l'hôpital, on ne s'est pas dit on va partir en tour du monde. Je crois qu'il y avait un petit peu d'apprentissage.
Il y avait deux ou trois priorités.
Voilà, exactement. Mais donc, c'est des choses qu'il faut prendre petit à petit. C'est un peu vertigineux si on essaye d'appréhender tout ce qui va se passer. Mais comme on n'y connaît rien, quelque part, ça nous préserve un petit peu et ça nous permet d'avancer au fur et à mesure et de prendre les choses comme elles viennent.
Avec la curiosité des novices, Pierre, vous racontez comment vous aviez des souvenirs formidables à la neige notamment. Tout bête, vous vous posez des questions toutes bêtes qu'on se poserait quand on est encore valide, qu'on ne se pose pas quand on est valide. Est-ce que je ressentirais encore la sensation de mon pied dans la neige qui s'écrase et c'est votre père qui doit vous aménager l'appartement pour que vous puissiez retourner à la neige.
Exactement, on a eu de la chance qu'il soit au rez-de-chaussée.
Ouais. Premier point.
Exactement. Donc là, on a pu le faire adapter et depuis, on y retourne de temps en temps pour en profiter.
Ouais. C'est ça. Ça pose des problèmes tout bêtes, mais il faut aménager la salle de bain, tout bêtement. Sinon, vous ne pouvez pas vous laver. Enfin, ça change du tout au tout. Donc, vous avez besoin d'être encadré. Vous allez découvrir, vous adapter très vite.
Oui, en fait, on a pris le temps de découvrir au fur et à mesure quels étaient les équipements nécessaires pour qu'on puisse vivre comme avant, en fait. Et au fur et à mesure, ça s'est fait petit à petit. Et au fur et à mesure, on découvre de nouvelles choses, on découvre de nouveaux systèmes et on en découvre tous les jours.
Alors, vous n'avez pas choisi ce qui vous est arrivé par nature, mais on a l'impression finalement que quand on vous écoute, quand on vous rencontre, vous êtes rayonnant, vous n'avez presque pas de regrets. C'est comme ça et on fonce.
Le problème, en fait, c'est que d'avoir des regrets, quelque part, c'est plus douloureux pour nous que pour les personnes qui nous l'ont infligé. Donc, en gros, nous, on part du principe qu'on avait envie de vivre bien, on avait envie d'être heureux, on avait envie de se tourner vers l'avenir. Et du coup, c'est vrai que vivre dans le regret, quelque part, c'est se raccrocher à quelque chose qui, de toute façon, ne sera plus. Mmh. Et donc, du coup, c'était important pour nous de réussir à passer à autre chose et de se concentrer sur ce qui allait nous arriver de beau plutôt que ce qui nous était arrivé de mal.
Et il vous en arrive des choses de belles, ce tour du monde. On en parlait justement, toutes ces rencontres que vous avez faites, vous les auriez peut-être pas faites sans qu'il vous soit arrivé ça?
Je suis pas sûr qu'on aurait organisé un tour du monde de cette taille-là et de cette ampleur si j'étais pas passé en fauteuil. Oui, c'est clair.
C'est vrai. On raconte. Tiens, faites-nous un peu le programme de ce tour du monde parce que c'est quand même assez dingue. Il y a pas 1% des Français qui l'a fait ce tour.
En fait, quand on s'est rencontrés, on s'est fait une liste de pays dans lesquels on pourrait partir en vacances. Et quand je suis passé en fauteuil, tous ces pays-là, on s'est dit ça va être impossible d'y aller. Et puis après quelques années, on s'est dit justement, on va y aller, on va montrer que c'est possible potentiellement. Et donc on est parti en Amérique du Sud, on a fait le Machu Picchu. On est parti en Océanie, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. Et ensuite, on a été bloqué par le Covid pour l'Afrique et l'Asie.
Mais c'est au programme.
C'est complètement au programme, parce qu'on a prévu de refaire notre gros projet d'Afrique en allant faire l'ascension du Kilimandjaro en juillet prochain.
Mais j'allais le dire, justement. Ouais. Le Kilimandjaro en fauteuil roulant. Il faut parler, vous disiez, il ne faut pas avoir de regrets, notamment, sinon ce serait faire gagner ceux qui vous ont fait subir ça, en tout cas. Il faut dire un mot quand même de ce procès au Bataclan. Vous n'y allez pas, c'est un choix, mais vous avez votre avocat qui est sur place, Myriam ou Pierre.
Tout à fait. En fait, c'est hyper important pour nous, évidemment, d'être représentés. Donc, on est partie civile et voilà. Enfin, il faut que justice soit faite sur ce procès. Néanmoins, c'est vrai que nous, on avait besoin de prendre un petit peu de distance. Les témoignages, on les suit évidemment, mais ils ont été très durs pour nous à lire et à entendre, bien évidemment. Et donc, on a la chance de pouvoir se concentrer sur des projets qui nous tirent vers l'avant et on essaie du coup de rester là-dessus. En fait.
Autre avantage, ça c'est important aussi, Pierre. Vous n'avez pas gardé des souvenirs de tout ce qui s'est passé ce soir-là?
Oui, après avoir été touché, j'ai fait un blackout complet. Et en fait, j'ai aucun souvenir visuel, d'odeur ou quoi que ce soit.
C'est presque tant mieux.
Et ça, je pense que ça m'aide énormément. Alors peut-être que c'est enfoui quelque part dans mon cerveau, que c'est pas ressorti, on en profite.
Il y a un mot qui revient souvent et qui est peut-être lourd à porter. Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise vous êtes victime ou pour vous n'êtes pas une victime du Bataclan? Vous êtes comme ça, vous êtes Pierre Cabon. Comment vous définissez?
Je suis Pierre Cabon, en effet, mais j'en reste pas moins une victime, certes, du Bataclan, mais on a essayé de tirer le meilleur de ce malheur qui nous est arrivé en essayant de donner envie aux autres de voyager par la suite.
Et c'est pas l'envie qui vous manque aussi, vous avez encore beaucoup de choses à faire, les choses les plus folles.
On a encore énormément de choses à faire, d'autant que du coup on a créé effectivement une société maintenant, donc on vit du voyage et du coup ça s'appelle Wheel World et l'objectif c'est vraiment d'inviter d'autres personnes à faire la même chose et donc plus on fera de voyages et plus on montrera qu'il y a des choses qui sont possibles et c'est vraiment ça qu'on va s'atteler à faire dans les prochaines années.
éclatez-vous, on vous souhaite tout le bonheur du monde en tout
cas.
Merci
beaucoup.
Bonne route, bonne ascension sur le Kilimandjaro, on vous verra peut-être sur le Fujiyama plus tard.
C'est ça.
Il en reste hein, des montagnes à l'Everest, pourquoi pas au programme, ce serait la première fois peut-être d'ailleurs en fauteuil roulant. C'est tout ce qu'on vous souhaite, franchement bravo.
Merci beaucoup.
Merci pour ce témoignage Myriam Cabon et Pierre Cabon. Un éclat dans le noir, c'est publié chez Fayard, c'était le livre du dimanche, vous pouvez vous le procurer sur internet et dans toutes les librairies de France. Vous écoutez le Grand Matin Weekend sur Sud Radio. Il est 9h52.